C'est l'heure de Clic Clac Topette, le programme qui explore l'histoire en Anjou. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à un roi, notre roi René, puisque nous accueillerons Luc Gourin, l'élu au tourisme de Beaugeais en Anjou, qui nous présentera la nouvelle scénographie du palais du roi René. Et comme toujours, cette émission sera ponctuée par Eva T'expliquer et par le crayon de Raph. Bonne écoute! Mais avant ça, je souhaitais vous partager la peine de Monseigneur de Nigremont dans son billet indépendantiste du samedi 6 mars dans Ouest-France.
Le moulin de mon cœur, où un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Notre nation vient de sombrer dans le plus noir des marasmes et nous vivons aujourd'hui une de ces tragédies à l'antique dont la mythologie regorge et qui relègue les destins d'Oedipe, de Médée ou de Sisyphe au rang de paisible existence de rentier. Stéphane Moulin s'en va. Le moral des Angevins était déjà chancelant, après ces mois de crise sanitaire qui vous usent aussi sûrement qu'une râpe à fromage un morceau d'émental. Quand, le 26 mars 2021, cette date sera enseignée dans les écoles de l'Anjou libre par des maîtres désespérés à des enfants qui pleureront d'abondantes larmes, enfin, si l'Anjou survit, Stéphane Moulin, qui est aux causes que Napoléon est à la France et Maître Gims à l'autotune, a annoncé qu'il ne serait plus, à la fin de cette année, l'entraîneur de l'équipe de football angevine. Stéphane Moulin s'en va. Si vous êtes un peu fragile psychologiquement, comment ne le seriez-vous pas, au vu de la marche du monde qui tient plus de l'enfer de Dante que de Bécassine à la plage, je ne saurais trop vous recommander d'éviter de déambuler ces jours-ci dans les rues d'Angers. Partout, ce ne sont que scènes de désolation, images de détresse, figures de misère. Stéphane Moulin s'en va. Au coin des rues, des petits hôtels, ornés de statuettes de Stéphane Moulin en pâte à modeler, sont fleuris par la vénération publique et les enfants y déposent des bougies. Devant le stade Coppa, des milliers de personnes veillent à genoux, chantant des cantiques et des hymnes de supporters, jour et nuit. Désespérés, des femmes arrachent leurs cheveux, des hommes leurs génitoires. Devant tant de souffrances, les autorités prennent des mesures. L'ambassadeur de France en Anjou, ci-devant préfet du Maine-et-Loire, prépare une distribution générale de menthe-pastilles pour remonter le moral des populations. Le maire d'Angers propose d'offrir le château de Pignerol à l'entraîneur du SCO, tandis que les plus grosses fortunes d'Anjou, comme les familles les plus miséreuses, se cotisent pour l'ensevelir sous les millions. Stéphane Moulin s'en va. La libération de l'Anjou, qui était à deux doigts d'aboutir, vient d'être abandonnée. Une nation pleure. Stéphane Moulin s'en va.
Luc Gourin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes élu au tourisme pour la commune de Beaugeais-en-Anjou, en Maine-et-Loire donc. Et justement, il semblerait que la stratégie du château du roi René de Beaugeais ait quelque peu évolué, puisqu'un nouvel aménagement va bientôt accueillir le public, là en 2021 finalement.
Oui, à partir du moment où on va être déconfiné, que les lieux publics, les lieux culturels vont pouvoir réouvrir, nous on sera prêts à les accueillir avec une nouvelle scénographie à l'intérieur de notre beau château de Beaugeais.
D'accord, alors justement cette scénographie, qu'est-ce qui va changer? Parce qu'on a encore en tête cette image du chevalier qui trône fièrement au premier étage.
Ce qui va changer, c'est à peu près tout, c'est-à-dire que à l'intérieur du château, hein, si on remonte un petit peu dans le temps, cette scénographie datait de 2003, donc ça commence à dater un petit peu, c'est-à-dire que au début des années 2000, la mairie de Beaugeais s'était posé la question de lancer la mise en tourisme de ce lieu patrimonial important.
Ouais.
Et donc, en 2003, ils avaient créé une scénographie qui était une très très belle scénographie de 2003, sauf qu'en 2020, elle est toujours une très belle scénographie de 2003. Donc il était quand même assez important de repenser cette scénographie avec tous les moyens et tout ce qu'on appelle aujourd'hui dans notre jargon la médiation actuelle. C'est-à-dire qu'on va à la fois penser pour avoir un maximum de moments interactifs où les gens vont ne pas simplement être des visiteurs, mais un acteur. En fait, il va devenir acteur de sa visite.
Un vis-acteur.
Un vis-acteur, ça va être ça.
Un néologisme. Et dans l'idée, de toute façon, si j'ai bien compris, c'est de faire passer ce château d'un simple relais de chasse dans l'imagerie un peu populaire et touristique à un palais. faire revivre un petit peu ce côté vie du 15e siècle avec un banquet, une cheminée par exemple au premier étage ?
C'est exactement ça. Notre bon roi René qu'on connaît tous avait de nombreux points de chute qui sont encore très très présents. Alors évidemment qu'on pense tout de suite, quand on pense roi René, on pense au château d'Angers. Bien entendu, on peut penser également au château de Saumur. Et effectivement, le château de Baugé était... pas du tout un lieu de guerre, un lieu de pouvoir, mais plutôt un lieu de plaisir. Aujourd'hui, on a décidé d'aller plus loin dans dans la façon de raconter l'histoire, tout simplement en mettant l'accent sur le fait que quand il allait à Baugé, il n'allait pas simplement à Baugé pour chasser, mais il allait vraiment pour y faire une vie de cour.
Donc plaisir et pouvoir, c'est pour ça qu'on retrouve le côté palais, hein, parce qu'il accueillait des personnages importants, et beaucoup de monde en plus, parce que, alors j'ai plus le chiffre en tête, c'est une cinquantaine, même peut-être plus que ça encore, qui pouvait être accueillis dans ce château. Et d'ailleurs, dans les combles, vous avez voulu faire ressurgir l'aspect brut de l'architecture, les vestiges qui montraient les différents étages, les différents aménagements.
Dans une scénographie je veux dire moderne, hein, des années 2020, eh bien, c'est un peu comme dans un film. Aujourd'hui, quand on fait un film, la partie making-of est largement aussi importante et quelquefois se vend aussi bien que le film. Eh bien là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent visiter un château, quand ils viennent visiter quelque chose, ils ont envie d'avoir le off, comprendre derrière comment ça se passe. Et donc, ça nous paraissait intéressant de se dire que ce château du roi René, entre le moment où le roi René est mort et aujourd'hui, bah, le château, il a eu plein de vie. Et donc, de faire... traverser le miroir.
Voyager dans le temps, en fait.
Voilà, aux visiteurs pour repasser dans un certain nombre d'endroits. Donc, on va pouvoir admirer, par exemple, dans une superbe pièce, on va pouvoir admirer la charpente du château.
Originelle.
Voilà, la charpente originelle qui est là depuis un petit paquet d'années, qui nous a vu tous grandir, clairement. On a refait une forêt de chandelets dans les combles du château. Donc avec un traitement artistique très spécifique, avec des choix de façon à pouvoir raconter un petit peu l'histoire du roi qui part à la chasse, du roi qui revient de tournoi, du roi... voilà, son histoire.
Donc une forêt, la forêt de chandelets au cœur du palais du roi René dans les combles, hein, ça va être très intéressant à voir pour les prochains visiteurs.
Ah oui, je pense qu'il fera vraiment son effet. Alors on a quelques points forts comme ça dans la visite. Par exemple, à un endroit, on peut créer son propre blason. On pourra choisir un blason en se disant, bah, si j'utilise le bleu, c'est plus alors cette couleur-là.
Ça signifie telle chose, voilà. Telle valeur.
Donc une fois que le blason sera complètement fait, on aura ce qu'on appelle un photobooth, un peu, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se faire prendre en photo comme un chevalier avec son propre blason.
Bon, bah, une muséographie, comme on dit, une scénographie moderne, revisitée et interactive qui va plaire aux visiteurs, je pense. Le palais du roi René à Baugé est associé à l'ancien Hôtel Dieu, avec sa très belle apothicairie, sa superbe chapelle.
Alors, c'est un petit peu notre leitmotiv aujourd'hui. Une fois que vous aurez visité le château du roi René à Angers, vous viendrez découvrir le palais du roi René à Baugé. On espère bien que le fait de se déplacer à Baugé pour visiter le palais du roi René, vous en profiterez pour aller découvrir l'Hôtel Dieu, donc qui est un magnifique vaisseau de pierre qui accueille entre autres un joyau quasi unique en Europe. C'est une apothicairie du 15e.
Construite sous Louis XIV, il me semble.
Construite sous Louis XIV, là, on est clairement là-dessus, c'est-à-dire que quand on visite l'apothicairie, quand on visite l'Hôtel Dieu, eh bien, on navigue à l'intérieur de la vie de l'hôpital, en fait, de Louis XIV jusqu'à nos jours. Parce qu'il faut savoir que cet Hôtel Dieu a été construite effectivement sous Louis XIV, mais elle a cessé simplement son fonctionnement il y a quelques dizaines d'années uniquement.
Donc dans son jus.
C'est cela.
Entièrement dans son jus.
Et donc cet Hôtel Dieu, on peut bien entendu la visiter, on peut admirer cette magnifique apothicairie, on peut la visiter de façon relativement classique, on peut également faire une petite nouveauté qui a été lancée l'année dernière, alors... bien entendu avec toutes les conditions de l'année dernière, fait qu'on peut considérer que c'est une nouveauté encore cette année. On a un escape game sur l'apothicairie, sur l'hôtel Dieu, qui est vraiment complètement d'actualité parce qu'on est sur la propagation d'un virus. C'est l'occasion de découvrir de façon très très ludique ce bâtiment complètement exceptionnel.
On sent bien en tout cas qu'à Beaujeu-en-Anjou, il y a une volonté, une dynamique hein, de renforcer l'attractivité du territoire, notamment sur le plan touristique.
Effectivement, quand on se déplace pour aller sur Beaujeu et visiter le château, l'hôtel Dieu, on peut en profiter pour aller découvrir plein d'autres petites pépites qu'on a sur le territoire.
Bah, tout ça à découvrir sur le site de la mairie, j'imagine, beaujeu-en-anjou.fr.
On peut le découvrir sur le site de la mairie, on peut le découvrir sur le site du château directement, hein, au niveau de l'office de tourisme de Beaujeu-Vallée.
Très bien, merci beaucoup Luc Gourin. Je rappelle que vous êtes élu au tourisme pour la commune de Beaujeu-en-Anjou et que vous souhaitiez nous présenter les nouveautés du Palais du Roi René de Beaujeu, évidemment.
Merci bien à vous.
Puisqu'on parlait de la diffusion d'un virus, je vous propose quelques explications à ce sujet avec Eve à t'expliquer.
T'inquiète, Eve va t'expliquer. Oh là, tu tousses papa, j'espère que t'as pas chopé quelque chose.
Arrête, tu crois que j'ai un virus ?
Avant de paniquer, dis-toi que oui.
Quoi ?
Nous sommes littéralement inondés de virus. Dans une cuillère à soupe d'eau de mer, il y a plus de virus que toute la population européenne réunie et, malgré leur taille minuscule, entre 10 et 100 nanomètres, jusqu'à 1000 fois plus petite que certaines bactéries, si on mettait bout à bout tous les virus présents sur Terre, ils s'étireraient sur 100 millions d'années-lumière. 1000 voies lactées, c'est inimaginable.
Ouais, c'est surtout pas très rassurant tout ça.
Ne t'inquiète pas. La plupart sont totalement inoffensifs pour l'homme, certains bénéfiques, et notre génome serait composé jusqu'à 8% de résidus de virus.
Ok, et tu viens de dire qu'ils étaient plus petits qu'une bactérie, mais c'est quoi la différence ?
Eh bien, dans les deux cas, il s'agit de ce que nous appelons des microbes. Les bactéries sont des organismes unicellulaires nécessaires à notre survie, mais pouvant parfois provoquer de graves maladies, comme la peste ou le choléra. Heureusement, la découverte des antibiotiques nous a permis de traiter ces pathologies en empêchant la multiplication des bactéries.
Ce qui ne fonctionne pas contre les virus ?
Eh non ! Un virus, qui signifie poison en latin, est un agent pathogène composé uniquement d'une capsule et de quelques gènes, nécessitant de trouver une cellule hôte, dans laquelle il va déposer son matériel génétique et prendre le contrôle sur cette cellule. À partir de là, il va lui ordonner la réplication de son propre génome et va venir infecter l'organisme.
Pas cool !
Heureusement, le système immunitaire repère alors ce virus et le détruit grâce à des anticorps.
Bah, alors pourquoi on tombe malade ?
Parce que nos organismes ne sont pas toujours préparés à lutter contre certaines maladies. Dans ce cas, le seul moyen de se protéger est la vaccination. On injecte au patient une forme atténuée de l'agent pathogène, provoquant une réaction du système immunitaire qui fabrique des anticorps spécifiques anéantissant le virus. C'est l'immunité.
Ok, mais il y a pas mal de débats en ce moment hein, sur les vaccins, notamment à cause des vaccins ARN. C'est quoi ça ?
Est-il encore nécessaire de préciser que la vaccination sauve 2,5 millions de vies chaque année ? Un vaccin à ARN messager, quant à lui, ne contient pas de morceaux de virus, mais une séquence protéinée, en clair, des informations destinées à préparer le système immunitaire de la même façon qu'un vaccin classique. Je te rassure, pas de risque de modification de ton ADN.
Moi qui espérais devenir un X-Men. Vaccin, ça vient d'où ça ?
Le mot vaccin vient de la vaccine, une forme de la variole touchant les vaches. En étudiant des récits chinois du XVIe siècle, relatant l'efficacité de produire une immunité durable contre la variole en inoculant celle-ci de façon atténuée, le médecin anglais Edward Jenner fait une expérience devenue célèbre sur le jeune James Phipps, alors âgé de 8 ans, en lui transmettant la vaccine, constatant 6 mois plus tard son immunité à la variole. C'était en 1776.
Ah, bah moi je croyais que c'était Pasteur qui avait inventé le vaccin.
Un siècle plus tard, Louis Pasteur s'inspirera de ses travaux, comprendra le principe d'inoculation de virus atténués afin d'éviter la maladie et vaccinera à proprement parler pour la première fois en 1885 le jeune Joseph Mechter contre la rage.
Ok, c'est passionnant. Et sinon, là en ce moment, ce qui fait débat avec la Covid, c'est finalement, vivons-nous une si grande pandémie ?
Tu veux connaître les plus grandes pandémies de l'histoire ? T'inquiète, elle va t'expliquer.
« Si on est angevin, on sait que la légende de Barbe Bleue se confond souvent avec Gilles de Rais, un personnage historique et bien réel né à Chantossé-sur-Loire et ayant accompagné Jeanne d'Arc. Élie Durel, un auteur, vient de publier un ouvrage intitulé « Le mystère de Gilles de Rais ». Mais ce mystère, Élie, c'est quoi ?
Le mystère de Gilles de Rais, il est que Gilles de Rais est devenu une légende noire, hein, en raison des crimes qu'on lui a imputés, puisqu'il a été considéré comme le plus grand serial killer de l'histoire, un tueur de marmots, ce qui n'est pas la réalité. Donc, dans cet ouvrage, on découvre un Gilles de Rais qui est effectivement qui souffre d'un trouble de la personnalité. Le livre permet de comprendre comment Gilles de Rais, parce que ça s'est produit dans l'enfance, on ne naît pas pervers, on devient pervers. Comment Gilles de Rais est devenu pervers et comment un pervers a pu lier une relation, si j'ose dire, platonique, bien évidemment, mais une relation de partenariat de par les armes avec une pucelle, Jeanne d'Arc. Gilles de Rais avait une obsession, c'était la pureté. Ouais. Jeanne d'Arc l'incarnait et la revendiquait. Donc elle lui a permis de vivre une exaltation et elle a contribué à l'accomplissement de sa mission et lui a contribué à l'accomplissement de sa mission au secours de la France.
Donc votre ouvrage en fait permet de nuancer un petit peu, d'atténuer cette légende noire de Gilles de Rais pour la contextualiser avec une approche un peu plus sociale, humaine.
Complètement, parce que on comprend beaucoup mieux Gilles de Rais lorsqu'on le voit sous cet angle du pervers. Ouais. Il était dans la perversion positive, il a basculé dans la perversion négative lorsque Jeanne d'Arc est morte au bûcher, ouais, pour des raisons aussi qui s'expliquent très bien. Mais sans Gilles de Rais, il faut le dire, il n'y aurait pas eu l'épopée de Jeanne d'Arc.
Donc tout ça est à découvrir dans Le mystère de Gilles de Rais par vous, écrit par vous, Élie Durel. C'est édité aux éditions du Petit Pavé, en Anjou. On peut se le procurer où, ce livre ?
Dans les librairies, les librairies en ligne, compte tenu de la situation actuelle, ou directement auprès des éditions du Petit Pavé.
Vous connaissez le CVA à Angers, le long de la Maine ? Raph vous le dessine maintenant dans son crayon de Raph, pour le plaisir de vos oreilles.
Derrière moi, la Maine, puis des bateaux hors de l'eau calés sur leurs berres, les structures en métal. Devant moi, un magnifique bâtiment, imposant, d'une ancienne époque, avec ses sigles incrustés sur la façade blanche, trois lettres CVA, le Cercle de la Voile d'Angers, un des plus anciens clubs de voile de France. Je sors mes crayons et je trace les premiers traits. Bonjour, c'est Raphaël, bienvenue dans le Crayon de Raph, les balades dessinées sonores à la découverte de notre ville, Angers. Les premiers éléments forts du décor sont les grands toits en triangle qui s'avancent, et puis les grandes baies vitrées, les balcons en ferraille et les mâts implantés sur la devanture. J'observe le bois peint en blanc, les fanions rouges et bleus sur lesquels sont apposées les lettres CVA, une belle terrasse qui s'avance. À y regarder de plus près, on croirait voir un bateau. En tout cas, j'ai soudain l'impression d'être en bord de mer. Le soleil frappe, les ombres s'entrecroisent, les contrastes saisissent. Grâce à des recherches sur Internet, j'apprends que le Cercle de la Voile d'Angers s'appelait avant l'Union de la Voile et de la Vapeur d'Angers. Il a été fondé par Monsieur Maurice de Fassy en 1898. Pendant plus d'un siècle donc, le CVA a contribué au développement de la plaisance et de la régate. C'est donc un lieu chargé d'histoire. On imagine alors aisément des personnages et sportifs en tenue d'époque déambuler autour de ce bâtiment. Je termine par apposer mon feutre pro-marqueur jaune pour faire ressortir le dessin. J'observe les autres maisons d'à côté, ici promenade de reculés, les habitations toutes différentes face au fleuve, les grands arbres, les barques à quai. Ce lieu est une véritable source d'inspiration pour les aquarellistes et dessinateurs de tout genre. Retrouvez le dessin réalisé et d'autres balades sonores dans Podcast Plus sur radio-g.fr, mais aussi dans l'émission Clic Clac Topette. Musique, apocalypse, cigarette, after sex.
Cette émission est à retrouver en podcast sur radio-g.fr, rubrique Clic Clac Topette. On se donne rendez-vous lundi à 13h dans deux semaines sur le 101.5 FM de Radio G. Prenez soin de vous. Topette.